France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Grazia.
Musique et moi. Camille. Elsa Boublil. Qui chante, prie deux fois.
Saint-Augustin.
Sur cette hymne à la liberté, presque, on pourrait dire, de celle que l'on appelait Mama Africa, Myriam Makeba, chanteuse sud-africaine, porte-voix contre l'apartheid et pour la fierté du continent africain, militante politique, contrainte à l'exil pendant plus de 30 ans, que nous vous accueillons, Camille, chanteuse, citoyenne indocile, libre, aventurière. Vous cultivez votre voix comme un exutoire et ou un outil de réflexion. La voix comme voix d'interrogation depuis un peu plus de 15 ans avec des albums engagés et engageants parce qu'ils nous prennent par la main à suivre le fil de votre voix avec laquelle vous bâtissez des chants, contre-chants, danses et contre-danses. Qui chante, prie deux fois. Voilà comment vous nous avez accueillis. Bonjour Camille. C'est une phrase de Saint-Augustin et je trouve qu'elle vous va bien.
Ouais, j'aime bien cette phrase. Je me faisais la réflexion aujourd'hui que je pense qu'à l'époque, en fait, comme on commençait le chant par le chant dans la prière, comme on chantait en priant, peut-être que Saint-Augustin disait que pour prier, il vaut mieux prier en chantant que prier sans chanter. Mais aujourd'hui, moi, je le prends comme presque une dérogation pour ne pas prier. Vous voyez ? C'est-à-dire que si vous chantez, ça revient au même. En fait, vous êtes en train de prier, vous vous en rendez même pas compte. Mmh. Moi, je le prends un peu comme ça, voilà. Moi, je me dis souvent, voilà, je n'ai pas de religion, mais je crois que la musique, c'est... Et le chant, pour moi, c'est ma manière d'être spirituel.
Oui, voilà. D'ailleurs, j'allais le dire, vous n'êtes peut-être pas croyante, mais on vous sent très connectée au monde spirituel païenne, j'avais presque envie de dire.
Oui, tout à fait, ouais. Je suis païenne. Et d'ailleurs, ça m'intéresserait beaucoup de redécouvrir quels étaient tous ces courants avant que l'Église catholique ne les écrase tous. Oh. Quoi. Il devait y avoir vraiment des courants passionnants de... Plein de manières de prier.
On va pouvoir en parler parce que votre dernier disque, oui, aborde beaucoup de ces questions. Et vous êtes l'invité de Musique et moi jusqu'à midi et demi. Donc ça va être l'occasion de parler de ce rapport à la musique et comment dire, prendre la musique dans votre vie, puisque je crois que c'est vraiment comme ça que vous avez même commencé à chanter, Camille. Myriam Akeba, pour commencer, ça a dû vous plaire, non?
Je vous remercie. Ouais. Ah, ça fait Alors je me suis dit que c'était une chanson à peu près aussi joyeuse que Happy de Pharrell Williams. C'est une chanson là, c'est historiquement gay, voilà. Tous les coups t'étais heureux. Ouais.
We'll be right back. La danse infernale de Katchay et de ses sujets, extrait de l'Oiseau de Feu de Stravinsky par l'Orchestre symphonique de la radio bavaroise sous la direction de Maris Janssens. Alors Camille, c'est pour commencer cette émission avec vous. Je disais tout à l'heure que vous avez choisi la musique, on peut le dire, mais on dirait qu'elle vous a choisi aussi, vous, enfant, très jeune, vous avez écouté de la musique, c'est ça?
Oui, j'écoutais la musique. On n'écoutait pas beaucoup de musique classique à la maison, mais j'étais très très sensible à la musique et encore aujourd'hui, je suis très sensible à la musique et 5 minutes de musique me nourrissent énormément, en fait. C'est pour ça que j'écoute pas beaucoup de musique, je pense, comparé. Ou j'aime pas écouter de la musique en fond sonore, par exemple. J'aime être plongée dedans et ça, voilà, ça me nourrit très profondément. Voilà.
L'Oiseau de Feu, c'est un souvenir de la prime enfance, néanmoins?
Alors, je ne sais pas quand je l'ai entendu enfant, mais je sais que je l'ai réentendu là et que je me suis aperçue que je l'avais déjà entendu.
Ouais.
Et donc, je l'ai redécouvert. Je trouve qu'il y a une perspective extraordinaire. On sent ce qu'il y a derrière et devant. C'est comme en peinture. Et je trouve qu'en pop musique, le problème, c'est que moi, j'essaie de nourrir cette perspective-là. Mais très souvent, au final, quelque chose d'assez plat, de plus en plus compressé. Mmh. Et quand on entend ça, voilà, on voit des personnages au fond, on voit les choses qui s'avancent. Ça n'arrête pas. J'aime beaucoup cet effet-là de perspective.
Ça, c'est dû à l'orchestration, essentiellement. Est-ce que vous arrivez à voir comment cette perspective est possible?
Alors, la première chose, c'est dû à l'orchestration et au jeu aussi. Au fait que, là, on entend bien, qu'il y a une énorme dynamique de jeu qui est, je pense, moins à l'œuvre en pop à l'intérieur d'un même morceau, peut-être à l'intérieur d'un concert, mais, ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose du jeu parce que c'est une musique qui n'est pas amplifiée, qui est acoustique. Donc, on entend bien les timbres et on peut vraiment jouer avec l'énergie de manière très subtile. Et puis évidemment, ils sont très nombreux. Voilà, c'est un orchestre, donc il y a des gradations énormes qui sont possibles.
Camille, vous disiez n'avoir pas écouté tant de musique classique que ça enfant. Vos parents étaient enseignants, je crois.
Ouais.
Ils écoutaient quoi comme musique? Ils vous faisaient écouter quoi?
Beaucoup de la musique de leur jeunesse, je pense, parce que c'était beaucoup de folk et de musique noire américaine et anglaise aussi, évidemment, les Beatles, et un petit peu de chansons françaises. On écoutait quand même Nougaro et Gainsbourg, et puis j'ai vu des images d'archives de Piaf, Brel en noir et blanc qui m'impressionnaient beaucoup. Mais je crois que leur goût les portait plus vers la musique dansante ou la musique noire américaine ou folk, ouais.
Im ganzen Land. gar nicht froh und schlusst dich an den allen Mädchen. Sag mir da aber mal. Der Vogelfänger bin ich ja, stets lustig, heiße Absatz. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land.
Bei alt und jung im ganzen Land.
Ein Netz für Mädchen möchte ich, find sie dutzend weiß für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein.
Und alle Mädchen wären sein.
Der Vogelfänger bin ich ja, la flûte enchantée de Mozart, interprétée par Laurent Dehors, le clarinettiste arrangeur qui a arrangé cette version de la flûte enchantée que je voulais vous proposer, Camille, parce que je trouvais que ça correspondait en quelque sorte à ce que vous pouvez nous offrir, c'est-à-dire réussir à complètement revoir, revisiter de manière presque humoristique la musique.
Oui, c'est en tout cas ça se danse, hein. C'est comme une scottish très lente. Je vais trouver, c'est très troublant comme mélange cette interprétation. Ouais, il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour dans l'œuvre elle-même, mais ça m'a beaucoup marqué cette œuvre parce que il y a la fantaisie dedans. Moi, c'est ça que j'aime chez Mozart. Il y a beaucoup de fantaisie et je crois que c'est vraiment une œuvre qui m'a donné envie de chanter, enfin qui m'a encouragée. À chanter petite, je me disais pas je vais être chanteuse ou quoi, mais je sais que ça me donnait envie de chanter, voilà cette joie là, ça m'a beaucoup beaucoup marqué.
Cette légèreté plus, en même temps profonde parce que
c'est ça. Il y a beaucoup de légèreté exactement chez Mozart et même dans dans les thèmes profonds, il y a toujours cette petite chose là qui fait que rien n'est grave.
Oui, qui est bien retranscrite ici dans cette version donnée par Laurent Dehors. Et alors, ces instruments, la cornemuse, bon, la clarinette basse qui fait la basse, est-ce que ce sont des instruments qui vous intéressent ou qui semblaient toujours aller chercher vers, retourner vers les origines? En tout cas, dans Oui, c'est le cas.
Oui, alors au début, ça me rebutait complètement. Voilà, le son de l'accordéon, de la cornemuse, ces sons très saturés. Et en fait, en m'intéressant beaucoup à la musique trad, qui est donc une musique acoustique, je me suis rendu compte en fait que ces instruments avaient l'intérêt de porter, donc loin quand on n'est pas amplifié, et puis de vite saturer le cerveau et donc de favoriser la transe en fait. Et donc je me suis mise à les aimer.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Avec Camille, la chanteuse, qui est l'invitée de Musique et moi ce matin sur France Musique jusqu'à midi et demi. Et vous disiez saturer le cerveau de musique et donc nous faire entrer dans la transe. C'est pour ça que vous écoutez pas beaucoup de musique vous-même, Camille, parce que vous disiez tout à l'heure, j'adore ça, quand j'écoute, ça me nourrit, mais à la fois, je ne peux pas en écouter trop.
Il y a des écoutes différentes. Si je peux bouger, si je suis avec d'autres gens, je peux écouter très longtemps de la musique dans des concerts ou dans des bals, puisque j'aime bien aller dans les bals trad. Non, ça, je peux me plonger très, 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 très longtemps. Mon corps, il devient de la danse, il devient du son, et voilà. C'est quand j'écoute de la musique sur une, amplifiée à la maison ou sans être en direct avec la musique.
Sans vous poser ou écouter.
Ouais, enfin, sans être en vibration directe avec la musique, c'est ça que je veux dire. Enfin, on est très très vite tenté dans ces cas-là de faire autre chose. Non, alors j'ai besoin de me remettre dedans pour vraiment. En fait, je pense que quand on est à un concert, c'est quand même plus facile de se plonger que quand on est chez soi. Donc, moi, j'ai besoin de ça.
D'ailleurs, on vous a apporté un casque pour que vous puissiez mieux écouter la musique pendant cette émission. l'Allegro vivace de la danse des ours des images hongroises de Béla Bartók par l'Orchestre symphonique de Chicago sous la direction de Pierre Boulez. Bartók qui allait enregistrer, recenser les musiques traditionnelles hongroises et roumaines et qui là, ici, essaye de nous restituer à travers ses danses un peu les musiques folkloriques qu'il a recensées et qui semblent vous parler, Camille.
Ouais, c'est un mouvement naturel des choses que d'aller chercher dans ces traditions orales de la matière pour inventer quelque chose de personnel, d'artistique, Moi, ça me touche beaucoup toutes ces œuvres classiques qui s'inspirent des musiques traditionnelles parce que j'aime les musiques traditionnelles parce que les musiques traditionnelles ça se chante et ça se danse en même temps. Donc le corps est vraiment est présent et puis souvent c'est des mélodies qui se retiennent, qui sont très fortes en fait,
elles
très
ne sont
faciles,
pas savantes en fait.
Voilà. Ouais. Et ça me parle.
J'ai vu que pour vous, la danse était presque indissociable du fait de chanter.
Le mouvement, en tout cas. Enfin, je pense que toute mélodie peut amener un mouvement plus ou moins amplifié. On n'est pas obligé de se faire des sauts de cabri. Mais voilà, ça se traduit assez naturellement dans le corps. Ça me paraît très, très indissociable, en fait.
Et alors du coup, la démarche que vous faites par rapport à la musique folklorique, elle consiste en quoi? Est-ce que vous allez chercher dans le répertoire folklorique? Est-ce que vous vous déplacez pour aller retrouver ce qui reste? Parce qu'il reste malheureusement pas assez de musique folklorique qui se danse actuellement.
Le plus excitant, je trouve, c'est d'aller à la source, qui est de plus en plus difficile, d'aller à la source des personnes qui vous disent ça c'est... Je le chantais dans telle occasion où ma grand-mère me l'a apprise, etc. Ça, c'est le fruit de collectages qui ont eu lieu encore dans les années 80. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Aujourd'hui, il faut les réinventer, ces chants. C'est des chants qui naissent de nécessité de la vie quotidienne. Et c'est ça qui me touche. Voilà, c'est des chants qui jaillissent, non pas parce que... on veut créer quelque chose ou qu'on veut vendre quelque chose ou rentrer dans une industrie ou quoi. Mais ils jaillissent parce que je pense qu'on est une espèce chantante et que on a besoin de chanter dans les conditions difficiles, joyeuses et que ça...
C'est ce que vous avez essayé de nous faire vivre un peu, j'ai l'impression, avec la chanson « Les loups ».
Je mène les loups, mène les loups, laissez donc faire. Je mène les loups, loin de chez vous. Je mène les loups, laissez donc faire. Je mène les loups, loin de chez vous. Je n'irai pas au bord de la rivière. Je n'irai pas si mon amant n'y est pas. Je n'irai pas au bord de la rivière. Je n'irai pas si mon amant n'y est pas. Je mène les loups, mène les loups, laissez-nous faire. Je mène les loups, mène les loups, loin de chez vous. Je mène les loups, mène
un extrait de l'album Oui de Camille, Les Loups, votre dernier album Camille, dans lequel donc apparaît cette chanson qui est extrêmement touchante parce qu'on a l'impression de repartir dans du patrimoine folklorique avec bien sûr, un peu comme Bartok avant, avec votre touche à vous, avec ce que vous y avez apporté.
Oui, d'ailleurs, le propre des répertoires folkloriques, c'est que bon, les morceaux se baladent, hein, c'est oral, c'est des trades. Et puis, toute la force et de proposition, elle est dans l'interprétation. Ouais. Donc voilà, ça c'est mon interprétation de chanteuse de chansons pop, de cette chanson des loups qui raconte certainement une cérémonie villageoise qui consistait à mener les loups loin du village, vers la forêt, de leur amener chez eux, j'en sais rien.
En tout cas, vous défendez vraiment de manière très forte aussi le patrimoine naturel à travers cette chanson. Enfin, il y a quelque chose d'engagé de votre
oui,
part.
Oui, le loup est le symbole du sauvage et est très souvent un symbole du féminin. Parce que ce qui est rejeté dans le féminin, c'est souvent son caractère sauvage. Et c'est important de se dire aujourd'hui que s'il y a un siècle à peu près, hein, le monde sauvage, les forêts sauvages représentaient 80% de la surface de la Terre. Aujourd'hui, elles ne représentent que 20%. Voilà, moi, ça me désespère. Et en même temps, ça m'encourage à courir vers ces forêts et vers ces forêts en moi aussi, à les explorer, parce que c'est ce qu'il y a de plus beau et on ne peut pas être spirituel et on ne peut pas créer, on ne peut pas être des musiciens si le monde sauvage n'est pas là.
Disparaît, ouais. Et la nature, d'ailleurs, est très présente dans votre disque, mais aussi depuis le début de l'émission, vous avez remarqué, on a parlé que d'oiseaux de feu, la flûte enchantée, encore un oiseau, on a parlé d'ours, ensuite de loup. C'est important dans votre vie, Camille, cette présence de la nature, l'imagerie des animaux et de la nature.
Alors, c'est très important. Et le fantasme est très important aussi, parce que quand on vit dans une grande ville, on est presque plus habité par ce fantasme que quand on vit à la campagne, aussi sage soit-elle, parce que nos campagnes sont loin d'être sauvages. Mais je pense que quand on vit dans une ville bouillonnante, qui est comme une jungle sans nourriture, sans fruits, hein, on est...
Très minéral d'ailleurs aussi.
Très minéral, on est... Mais quand même sauvage de par son énergie, voilà, les mélanges qui s'y passent, les risques encourus dans les ruelles sombres. Je pense que voilà, les urbains, on a des grands fantasmes et des grandes ambitions écologiques, paradoxalement. Mais parallèlement à ça, j'aime y aller en vrai. Moi, je connais pas beaucoup de forêts complètement sauvages, mais j'aime être en contact avec les forêts pour de vrai.
la valse du lac des cygnes de Tchaïkovski par l'orchestre philharmonique de Bergen sous la direction de Néeme Järvi. C'est un souvenir musical relié à quel moment de votre vie, Camille ?
C'était avant l'adolescence. J'imagine que j'avais entre 8 et 12 ans, je faisais de la danse classique et ma grand-mère m'emmenait voir des ballets.
Ouais.
Voilà.
Et donc c'est que en tant qu'élève de danse classique, c'est l'extase, c'est ça, c'est
oui,
le rêve absolu.
Oui, j'ai choisi ce ballet mais j'en ai vu plein.
Ouais.
Et je pense que je ne faisais pas particulièrement attention à la musique elle-même, mais à l'ensemble du spectacle, mais ça m'a certainement nourrie en tant que musicienne et la danse classique a été d'une certaine manière une plongée pour moi dans la musique aussi, sans m'en apercevoir. Mmh. Une imprégnation de ces œuvres, en fait, que j'écoutais pas forcément sur ma platine à la maison, dans ma chambre. Mais je les écoutais de cette manière-là, ou en cours de danse. Voilà, pour moi, c'était féerique d'aller voir ces ballets.
Ouais, avec ce bal qu'on vient d'écouter, hein, bal qui est important, puisque à ce moment-là, il va être question de choisir une épouse parmi toutes les femmes et l'ivresse que ce bal peut engendrer.
La valse.
Voilà, la valse.
La transe, par excellence. Oui. Notre transe d'Europe occidentale.
Et je trouve intéressant, vous qui êtes intéressé par la transe et le lâcher prise, la danse classique, c'est pas vraiment enfant, c'est pas un lâcher prise du tout, non ?
Pas du tout. Mais j'ignorais qu'il y avait d'autres danses. Et puis, quand on est petite fille, on a toujours des fantasmes de princesse et de... C'était certainement mon cas et c'est pour ça que je pense que j'aimais la danse classique aussi. Il y avait quelque chose de guindé, mais de... déterré, de... qui devait m'attirer. Puis après, oui, j'ai pris la tangente, oui.
Et d'une certaine manière, c'est la danse classique qui vous a conduite, si je vous écoute bien, vers la musique, d'une certaine manière.
Beaucoup, plutôt l'héritage païen de mon père et de ma mère aussi. Hein. Mon père chantait, jouait de la guitare, du piano. Je dirais que c'est plus ça qui m'a guidée vers le chant. Mais la danse classique, déjà, je ressentais en dansant ce corps fait de son, quoi, que la musique me pénétrait, cette émotion du mouvement qui est pénétrée par le son.
Et, voilà, et qui engendre, oui.
Ouais, que le corps exprime cette émotion qu'on n'arriverait peut-être pas à mettre en mots, en fait. J'aimais beaucoup les adages quand je faisais la danse classique, je me souviens.
C'est quoi les adages?
C'est des danses assez lentes. Voilà, c'est comme des balades, danser en fait. Voilà, et j'aimais bien quand les bras avaient le temps d'onduler, voilà, qu'il y avait du temps pour le silence, pour l'étirement des notes, des mouvements, j'aimais bien ça.
Sanson François, interprète ce nocturne numéro 1 en si bémol mineur, opus 9 numéro 1 de Frédéric Chopin. On est complètement dans la représentation, j'ai l'impression, de ce que vous disiez tout à l'heure, Camille, de l'adage. C'est ça, ça pourrait être un adage à danser en danse en ballet.
Ouais, ça pourrait être un adage. Ouais, tout à fait. Et je crois que la raison pour laquelle j'ai besoin d'écouter attentivement la musique, et surtout la musique classique, je crois, c'est que j'ai besoin de restituer la présence de l'interprète. Je trouve qu'il y a un tel investissement de l'interprète. C'est tellement précieux que c'est comme si je lui devais ça. Ce respect. Là, c'est comme s'il était... c'est saisissant comme son énergie est présente. C'est incroyable comment cet homme jouait du piano. Enfin, Donc, faire un adage, danser dessus, pourquoi pas? Ça serait une manière de
lui rendre hommage.
De lui rendre hommage, d'être présent avec lui. Ou alors, juste comme on vient de le faire, écouter les yeux fermés, son offrande. C'est étonnant comment il est tout seul au piano et on entend à la fois le silence et quelque chose de complètement symphonique.
Camille, je vais encore plus loin parce que avec ce que vous dites de la présence effectivement de Sanson François, quand on écoute attentivement, est-ce qu'au-delà de Sanson François, est-ce qu'on ne sent pas Chopin dans les parages?
Complètement, lui certainement a essayé de restituer lui-même la présence de Chopin à travers lui. Ah oui, bah oui, c'est sûr. Moi, c'est Chopin, peut-être par sa mélancolie et aussi quelque chose de joyeux parfois, mais c'est toujours joyeux et mélancolique, me touche énormément. Et pour le coup, c'est vraiment un compositeur que j'ai beaucoup écouté avec mon frère. Qui jouait déjà du piano, qui composait déjà très jeune et puis qui continue à être pianiste et à composer et qui aime beaucoup Chopin, comme moi. Et donc on s'amusait à écouter ensemble le même morceau interprété par différents interprètes. Alors il y avait Rubinstein pour tout ce qui est très brillant et tout ça, mais Sanson François, c'est...
Vous en avez eu les larmes aux yeux quand même en écoutant.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Vous, Camille, vous avez pratiqué le piano?
J'ai pratiqué le piano, oui. Ça reste un instrument qui m'attire. Il a quelque chose d'animal que j'aime bien. Et il est très, très... Ouais, c'est un instrument puissant. Il m'enracine, en fait. Quand je suis un piano, je me sens... C'est un instrument lourd, évidemment, qui peut être joué de manière légère. Mais voilà, j'aime bien le piano. Mais je crois que voilà, ce qui m'attire, c'est la voix, parce que c'est extrêmement léger, c'est en nous, c'est humain, et l'interprétation avec la voix, elle me semble infinie et surtout intemporelle. Je crois que c'est ça que j'aime dans la voix, c'est que j'ai l'impression de puiser au fond des âges et d'aller dans le futur.
Vous avez pensé vous-même devenir chanteuse avant de devenir chanteuse, Camille, puisque vous parlez d'intemporalité? Est-ce que vous l'avez prémédité ou ça c'est arrivé comme ça?
Ah, c'est arrivé comme une évidence. Ouais, j'ai chanté pour le mariage de ma sœur et je me suis dit c'est ça. Mais c'était être chanteuse, mais c'est surtout qu'il fallait que je chante parce que ça m'ouvrait en fait.
Thank you.
Naïma, extrait de l'album Giant Steps de John Coltrane, qui est vraiment l'album qui va emmener Coltrane vers d'autres horizons, de nouveaux horizons, et que Coltrane considérait comme étant le titre référence et le plus beau qu'il ait jamais écrit de l'histoire de ses compositions, que je vous propose, Camille, parce que je trouve que Coltrane rejoint beaucoup de vos préoccupations, à la fois la recherche de la transe, la recherche de l'expression, sans le dire, par l'harmonie, en tout cas, en passant par d'autres chemins que la parole, parce que c'est ce que vous faites aussi, je crois, musicalement. Et puis aussi, peut-être instinctivement, me dire que cette musique-là devait vous parler, tout simplement.
Oui, c'est une autre forme d'adage que c'est tout à l'heure. Et oui, on le disait que ces musiques lentes-là, qui pourraient être des musiques de détente, de lâcher prise, en fait, elles sont extrêmement habitées, très très tendues et
presque dérangeantes.
Oui.
Le jazz, c'était, vous disiez tout à l'heure, la musique noire américaine était présente dans votre enfance, le jazz en particulier.
Je crois que mon père écoutait beaucoup de jazz, mais c'est pas ce que j'en ai retenu.
Ah oui.
Peut-être parce que naturellement j'aime la chanson, mais je sais qu'il y avait plein de disques de jazz et de cassettes qui traînaient, tout ça. Mais à part peut-être du Miles Davis, ce que j'en ai retenu de toute cette discothèque, c'est surtout les chansons.
Et pour en revenir à l'album Giant Steps et surtout ce titre, Naïma, Coltrane déclare que l'amour lui est inspiré cette musique-là. Est-ce que ça peut vous parler à vous ? C'est-à-dire, est-ce qu'un sentiment, qu'il soit amoureux ou de dépit, enfin, un sentiment peut inspirer une œuvre en particulier ?
Mais je crois que les œuvres ne sont inspirées que de sentiments. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est presque une manière de l'exprimer ou de s'en débarrasser, parfois, aussi.
De lui dire au revoir ?
Oui. Bah, les émotions, elles sont parfois douloureuses ou ambiguës. Et des fois, quand on écrit une chanson ou une mélodie, c'est comme si on lui donnait une couleur et on se rend compte à quel point cette couleur, elle est nuancée et des fois, ça, voilà, c'est une manière d'aller au bout de cette émotion. Voilà, vraiment de la visiter, en fait.
Donc oui, vous avez visité beaucoup la transe. C'était un...
Alors, dans oui, la base des chansons, là, en écoutant ce morceau, on se disait que c'était à peu
Naïma.
Près, Naïma.
Oui.
On se disait que c'était
au rythme cardiaque.
À peu près. Puis la contrebasse qui fait toum 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 toum. Donc sur oui, je suis un peu partie sur cette base-là de construire les chansons vraiment sur une pulsation qui est incarnée par une basse qui est pas une contrebasse, mais qui est une basse électronique, mais qui fait office de grosse caisse et de basse en même temps. Et puis j'ai construit les mélodies sur ces pulsations. Et puis pour l'harmonie, j'ai beaucoup utilisé la répétition des mots en fait, comme dans Je ne mâche pas mes mots. Je fais des boucles de mots. Comme un tapis sonore, en fait. Et d'une certaine manière, dès qu'on commence à répéter, on commence à
entrer en transe.
Ouais.
Thank you.
un extrait de The Desert Music de Steve Reich. Pour vous, Camille, ça fait partie des musiques que vous aimez, que vous écoutez, là, pour le coup, très attentivement. On est très proche, d'ailleurs, de votre démarche. On sent bien que vous avez dû vous inspirer pas mal de ces musiques-là.
C'est très flatteur ce que vous dites, hein. Je dis bien. Steve Reich, c'est un immense compositeur qui a influencé beaucoup de gens. C'est Magic Air, Matthew Kerr, qui m'a fait écouter Reich pendant qu'on... Et mon éditrice, Marianne Butuit, de l'époque, qui m'avait fait écouter Reich au moment où je composais le disque Le Fil. Ça m'a tout de suite plu, oui. De même que la musique africaine répétitive me plaît incroyablement. Lui, il a fait un pont. Oui, ça me plaît énormément. Comment dire, ça nourrit les cellules. J'ai vraiment cette impression-là. Cette œuvre-là, je la connais moins. Et c'est pour ça que je l'ai choisie, pour pouvoir l'écouter, là. Mais ce titre, c'est Desert Music, c'est
ouais,
ça,
c'est
Desert
ça. Music. Mais... Oui, c'est une mise en musique du poète William Carlos Williams, en
d'accord.
Plus.
Ouais, celle que je connais mieux, c'est Music for 18 Instruments, qui plonge tout de suite dans quelque chose de quasiment amniotique. Voilà, j'ai eu l'occasion d'écouter plusieurs fois Reich en concert et de le voir sur scène et de même de le remercier en personne. J'ai eu cette chance à New York de le...
Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est la vaste section de percussions, la répartition des instruments dont on parlait tout à l'heure. Vous, par rapport aux percussions, on sent aussi que dans l'album, oui, vous avez beaucoup réfléchi à comment faire entendre la percussion.
Oui, en même temps, en l'en rendant accessible. En chanson, je trouve que c'est difficile d'être bavard ou d'être virtuose. Moi, j'aime bien les choses simples, d'entendre bien les timbres. Vous voyez, en cuisine, je vais aimer l'arbre sur le fruit, j'allais dire. Le fruit sur l'arbre. Voilà. J'aime bien qu'on sente le fruit sur l'arbre et pas aller chercher des choses trop élaborées, trop compliquées, avec trop de raffinement, trop d'interventionnisme. Donc parfois, ça passe par beaucoup d'exploration, mais j'aime bien qu'au final, enfin, en tout cas sur le disque, les percussions sont épurées. Enfin, on comprend bien, n'importe qui peut comprendre, voilà, le dessin qu'elles font. Voilà.
Voir essayer de le faire.
Voir essayer de le faire. J'espère que ça donne envie de jouer, de chanter. Et Reich, c'est extraordinaire. Je pense pour tous les instrumentistes, mais là, en l'occurrence, pour les percussions et percussionnistes, pour les chanteurs. Moi, mon rêve, c'est de chanter du Reich dans un chœur. J'en rêve, quoi.
Alors, un mot sur votre envie, l'envie que vous avez eue, et je crois que vous l'avez fait, d'enregistrer en La 432 au lieu de La 440. C'est idéologique?
Non, alors je lis plein de trucs là-dessus, oui, que c'est idéologique, c'est ésotérique, pas par rapport à mon disque, mais par rapport à ce fameux-là, 432. Bah, moi, tout simplement, j'avais envie de me faire ma propre expérience, donc je l'ai essayé.
Et ça vous a plu?
Ça m'a beaucoup plu. D'ailleurs, maintenant, mon piano, et notre piano, enfin, avec mon compagnon, est toujours en La 432. Ouais, c'est, je pense que le caractère de ce disque, en tout cas, est lié à ce La 432, quelque chose de ouaté, une douceur.
Oh.
une ancienne pour voix et harpe, O Beata Infantia, de Hildegard von Bingen. Qui est votre compositrice de chevet, Camille?
Ah oui, je réponds à la question, hein. Je me serais pas lancée comme ça en disant « Hildegard von Bingen est ma compositrice de chevet ».
Néanmoins, je trouve qu'il y a quelque chose qui vous va bien. Très proche de la nature, une femme, une religieuse qui sait d'une certaine manière profiter de la vie. Enfin,
oui, elle en a profité longtemps, en tout cas. Ouais. Je ne sais pas si elle était sensuelle, mais en tout cas, elle a une vie longue. Et oui, bien sûr, bah oui, compositrice de chevet parce que c'est une femme rayonnante. Voilà, elle est inspirante sur le plan musical et puis sur plein d'autres plans. C'est une la femme totale, voilà. Et je pense que les femmes se doivent d'être totales, voilà. Pas seulement dans leur métier visible, leur travail, mais un travail qui est peut-être plus profond et plus invisible et qui est néanmoins quotidien.
15 ans ont passé depuis que vous avez commencé à chanter, un peu plus de 15 ans d'ailleurs. Est-ce que vous avez senti, vous, en tant que femme, des changements, justement, par rapport à la place de la femme? Comment?
Ah, dans être... la société,
ouais,
vous voulez dire?
Ouais.
Bah, je trouve ça de pire en pire et de mieux en mieux, quoi. C'est-à-dire que les violences faites aux femmes de manière complètement visible ou complètement insidieuse sont énormes. Et en même temps, il y a des prises de conscience immenses et les femmes bougent énormément. Et voilà, la société dans son ensemble prend pas le chemin du féminin. Hein, enfin, les gouvernements, etc., prennent pas vraiment ce chemin. Mais la société citoyenne, je pense que ça bouge beaucoup, mais je pense qu'il faut que le féminin reprenne le dessus, enfin en tout cas l'égalité, pas seulement dans les femmes, mais dans les hommes aussi, dans l'humanité. Voilà.
This Little Babe, un extrait de A Ceremony of Carols, opus 28 de Benjamin Britten, interprété par le chœur de l'abbaye de Westminster, sous la direction de Martin Neary. Britten, c'est chœur de garçons qui vous inspire, qui vous ont inspiré, Camille?
J'adore les voix de garçons parce qu'elles sont... elles sont androgynes, je trouve. On ne sait pas si c'est des garçons, des filles. Et moi-même... je crois, en tout cas quand j'ai commencé, j'avais un petit peu une voix de garçon, quoi. J'ai pas vraiment une voix de femme non plus, puis une voix un peu... Enfin, en tout cas, c'est des voix dans lesquelles je me retrouve beaucoup. Et puis la façon dont Britten écrivait et les voix qu'il aimait, c'était... Il aimait bien les voix un peu naturelles, évidemment tout ce qui venait du folklore aussi. Et j'aime beaucoup à ses chœurs comme ça, parce que ça, il y a quelque chose de vert, il y a quelque chose de... De brut, justement, c'est pas trop travaillé.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
S'inspirer de la Grande-Bretagne, Camille, pour donner accès à tous et à tous les enfants au chant et à la chorale, c'est en tout cas le vœu du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Et puis, d'une certaine manière, vous avez participé, puisque vous parrainez, je crois, l'application Vox développée par Radio France pour permettre aux enseignants d'enseigner le chant à tous les enfants.
Alors, je ne la parraine pas, je la marraine.
Marraine, ben voilà, vous avez raison. Voilà, une erreur typique, mais que j'assume. Donc, vous marrainez, ouais.
Je marraine, ouais. Bien sûr, je crois que c'est même une vocation chez moi que de transmettre le chant, j'appelle ça enchantée, voilà, de transmettre l'amour du chant. J'ai envie que tout le monde chante, et particulièrement les enfants. Moi, enfant, j'aimais chanter, mais j'ai jamais chanté à l'école. Et je crois que toute cette soif inextinguible et non étanchée quand j'étais petite a certainement nourri mon envie tout le temps de chanter. Et j'ai tellement envie que les enfants chantent. Enfin, c'est au-delà d'être chanteur, c'est un tel plaisir, quoi.
C'est pas du tout acquis, d'ailleurs, dans la société. Chanter dans la rue, c'est assez mal vu, siffloter aussi.
Je pense que ça devrait faire l'objet d'une déclaration des droits de chanter.
Donc, c'est pour ça que vous avez décidé de mariner cette belle application. Donc, toutes les informations concernant cette application sont sur le portail de Radio France. Et on voit votre engagement, ainsi que l'engagement de divers artistes. On va poursuivre cette conversation, mais c'est vrai que c'est important de savoir que vous...
Ouais, j'en suis très fière.
Merci.
C'est une très belle application.
Thank you.
Le deuxième mouvement du quatuor à cordes en fa majeur de Ravel, interprété par le quatuor Eben. Ravel fait partie de vos compositeurs importants, Camille. Et puis cette façon, ce rapport justement à l'instrument, qui pas de le détourner, mais en tout cas de nous le proposer autrement. C'est ça.
Oui,
que
c'était une de mes envies sur mon disque Ilo Veiu, de travailler avec un quatuor à cordes, mais avec beaucoup de pitié, voilà, que ça devienne un quatuor pop, comme c'est voilà, c'est mon métier, la pop, la chanson, presque, voilà, de sorte qu'on se passe de basse batterie, en fait, hein. Ouais. On entend la pulse, on entend le caclet,
que ce soit rythmique, en fait,
voilà, que ce soit rythmique. Ouais. Et je crois que j'ai découvert cette œuvre après, mais par contre, on va enregistrer ce disque, mais par contre, Clément Ducol, qui a fait les arrangements, je pense qu'il la connaissait bien, et c'est lui qui me l'a fait découvrir. Et bon, c'est magnifique, hein, c'est magnifiquement interprété.
Oui, le quatuor Eben. On se rapproche de votre volonté aussi de parvenir à transcender le rythme, c'est-à-dire peut-être aussi aller vers des mouvements arythmiques, voire des rythmes impairs.
On a souvent tendance à penser que oui, le rythme est quelque chose qui met le corps en mouvement, c'est en quatre, c'est en paire.
Mais en Occident, en tout cas.
Oui, en Occident. Enfin, en Occident d'aujourd'hui, mais l'impair est archi dansant. Et oui, les appuis sont peut-être moins simples.
Et moins stables.
Mais c'est comme si les rythmes pairs étaient la marche et les rythmes impairs la danse, en fait.
Donc, vous le pratiquez sans problème.
Oui, et je pense, pour avoir vu un enfant que je ne citerai pas se mettre à la batterie très très jeune, et ben, il venait des rythmes impairs.
Ah ouais.
Donc je pense que c'est complètement constitutif de nous, aussi bien que les rythmes pairs.
L'heure est venue, Camille, de se quitter. J'avais envie de vous dire au revoir sur un rythme impair avec Claude Nougaro et sa chanson Rime.
Ah, j'écoute, c'est laquelle, celle-là?
Je vous l'offre tout de suite. Je vous dis au revoir quand même.
Ouais.
Votre album, oui, est apparu chez Because Music. Et puis, on va vous voir, je crois, les 19 et 20 décembre au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Il faut vite prendre les réservations là. Parce que
c'est un tambour-voix.
Très bien. Et ben, à très bientôt, Camille.
À bientôt, Elsa. Merci à vous.
J'aime la vie quand elle rime à quelque chose. J'aime les épines quand elles riment avec la rose. J'aimerais même la mort si j'en sais la cause. Rime ou prose. J'aime ma chanson quand elle rime avec ta bouche, comme les ponts de Paris avec bateau mouche, et la perle des pleurs avec le débit. Rime triste. J'aime les manèges quand ils riment avec la neige. J'aime les nains qui riment avec Blanche-Neige. Rimons tous les deux. Rimons si tu veux. Même si c'est pas des rimes riches. Ah, rimons-nous, on s'en fiche. J'aime les manèges quand ils riment avec la neige. J'aime les nains qui riment avec Blanche-Neige. Rimons tous les deux. Rimons si tu veux. Même si c'est pas les rimes riches. Ah, rimons-nous, on s'en fiche. J'aime la vie quand elle rime à quelque chose. J'aime les épines quand elle rime avec la rose. J'aimerais même la mort si j'en sais la cause. Rime ou prose. J'aime ma chanson quand elle rime avec ta bouche, comme les ponts de Paris avec bateau mouche, et la perle des pleurs avec les débiches. Rime triste. J'aime les manèges quand ils riment avec la neige. J'aime les nains qui riment avec Blanche-Neige. Rimons tous les deux. Rimons si tu veux. même si c'est pas les rimes riches. Ah, rimons-nous, on s'en fiche. J'aime la vie quand elle rime à quelque chose. J'aime les épines quand elles riment avec la rose. Rimons, rimons, belle dame, rimons, rimons jusqu'à l'âme, et que ma poésie rime à ta peau aussi. Rimons, rimons, belle dame, rimons, rimons jusqu'à l'âme, et que ma poésie rime à ta peau aussi.
C'était Musique et moi en compagnie de la chanteuse Camille ce matin. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant cette émission sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et moi. Un grand merci à Manu Couturier qui était à la prise de son ce matin. L'équipe qui entoure cette belle émission, c'est Sophie Pichon à la réalisation et Marie Ferdinand, attachée de production. Je vous souhaite un très beau dimanche à l'écoute de France Musique ainsi qu'une très belle semaine. On se retrouve dimanche prochain, 11h.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.